Je n'entends pas que nous redevenions la fable de la ville entière avec tes histoires. Je veux que tu te soignes. » Il haussa les épaules. Il dit à voix basse, comme à lui-même, d'un air de constatation inquiète, « Je ne suis pas malade. » Mais du coup, Félicité sursauta hors d'elle. « Comment ? Pas malade ? Comment ? Pas malade ? Il n'y a vraiment qu'un médecin pour ne pas se voir. Et, mon pauvre garçon, tous ceux qui t'approchent en sont frappés. Tu deviens fou d'orgueil et de peur. » Cette fois, Pascal releva vivement la tête et il la regarda droit dans les yeux tandis qu'elle continuait. « Voilà ce que j'avais à te dire, puisque personne n'a voulu s'en charger, n'est-ce pas? Tu es d'un âge à savoir ce que tu dois faire. On réagit, on pense à autre chose, on ne se laisse pas envahir par l'idée fixe, surtout quand on est d'une famille pareille à la nôtre. Tu la connais. Méfie-toi, soigne-toi. » Il avait pâli. Il la regardait, toujours fixement, comme s'il l'eût sondée pour savoir ce qu'il y avait d'elle en lui. Et il se contenta de répondre « Vous avez raison, ma mère, je vous remercie. » Puis, lorsqu'il fut seul, il retomba assis devant sa table, il voulut reprendre la lecture de son livre. Mais, pas plus qu'auparavant, il n'arriva à fixer assez son attention pour comprendre les mots dont les lettres se brouillaient devant ses yeux. Et les paroles prononcées par sa mère bourdonnaient à ses oreilles. Une angoisse qui montait en lui depuis quelque temps grandissait, se fixait, le hantait maintenant d'un danger immédiat, nettement défini. Lui qui, 2 mois plus tôt, se vantait si triomphalement de n'en être pas de la famille, allait-il donc recevoir le plus affreux des démentis ? Aurait-il la douleur de voir la tare renaître en ses moelles? Roulerait-il à l'épouvante de s'en sentir aux griffes du monstre héréditaire? Sa mère l'avait dit, il devenait fou d'orgueil et de peur. L'idée souveraine, la certitude exaltée qu'il avait d'abolir la souffrance, de donner de la volonté aux hommes, de refaire une humanité bien portante et plus haute, ce n'était sûrement là que le début de la folie des grandeurs. Et, dans sa crainte d'un guet-apens, dans son besoin de guetter les ennemis qu'il sentait acharnés à sa porte, il reconnaissait aisément les symptômes du délire de la persécution. Tous les accidents de la race aboutissaient à ce cas terrible. La folie à brève échéance, puis la paralysie générale, et la mort. Dès ce jour, Pascal fut possédé. L'état d'épuisement nerveux, où le surmenage et le chagrin l'avaient réduit, le livrait, sans résistance possible, à cette hantise de la folie et de la mort. Toutes les sensations morbides qu'il éprouvait, la fatigue immense à son lever, les bourdonnements, les éblouissements, jusqu'à ses mauvaises digestions et à ses crises de larmes, s'ajoutaient, une à une, comme des preuves certaines du détraquement prochain dont il se croyait menacé. Il avait complètement perdu, pour lui-même, son diagnostic si délicat de médecin observateur. Et, s'il continuait à raisonner, c'était pour tout confondre et tout pervertir, sous la dépression morale et physique où il se traînait. Il ne s'appartenait plus. Il était comme fou à se convaincre heure par heure qu'il devait le devenir. Les journées entières de ce pâle décembre furent employées par lui à s'enfoncer davantage dans son mal. Chaque matin, il voulait échapper à la hantise, mais il revenait quand même s'enfermer au fond de la salle. Il y reprenait les chevaux embrouillés de la veille. La longue étude qu'il avait faite de l'hérédité, ses recherches considérables, ses travaux, achevaient de l'empoisonner, lui fournissaient des causes sans cesse renaissantes d'inquiétude. à la continuelle question qu'il se posait sur son cas héréditaire. Les dossiers étaient là, qui répondaient par toutes les combinaisons possibles. Elles se présentaient si nombreuses qu'il s'y perdait maintenant. S'il s'était trompé, s'il ne pouvait se mettre à part comme un cas remarquable d'inéité, devait-il se ranger dans l'hérédité en retour, sautant une, deux ou même trois générations? Son cas était-il plus simplement une manifestation de l'hérédité larvée, ce qui apportait d'une preuve nouvelle à l'appui de sa théorie du plasma germinatif? Ou bien ne fallait-il voir là que la singularité des ressemblances successives, la brusque apparition d'un ancêtre inconnu au déclin de sa vie? Dès ce moment, il n'eut plus de repos. Lancé à la trouvaille de son cas, fouillant ses notes, relisant ses livres. Et il s'analysait, épiait la moindre de ses sensations, pour en tirer des faits sur lesquels il put se juger. Les jours où son intelligence était plus paresseuse, où il croyait éprouver des phénomènes de vision particuliers, il inclinait à une prédominance de la lésion nerveuse originelle. Tandis que, s'il pensait être pris par les jambes, les pieds lourds et douloureux, il s'imaginait subir l'influence indirecte de quelque ascendant venu du dehors. Tout s'en mêlait. Il arrivait à ne plus se reconnaître au milieu des troubles imaginaires qui secouaient son organisme éperdu. Et chaque soir, la conclusion était la même. Le même glas sonnait dans son crâne. L'hérédité, l'effrayante hérédité, la peur de devenir fou. Dans les premiers jours de janvier, Clotilde assista, sans le vouloir, à une scène qui lui serra le cœur. Elle était devant une des fenêtres de la salle, à lire, cachée par le haut dossier de son fauteuil, lorsqu'elle vit entrer Pascal, disparu, cloîtré au fond de sa chambre depuis la veille. Il tenait, des deux mains, grande ouverte sous ses yeux, une feuille de papier jauni, dans laquelle elle reconnut l'arbre généalogique. Il était si absorbé, les regards si fixes, qu'elle aurait pu se montrer sans qu'il la remarquât. Et il étala l'arbre sur la table. Il continua à le considérer longuement, de son air terrifié d'interrogation, peu à peu vaincu et suppliant, les joues mouillées de larmes.